L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information, trois titres, une marche pacifique a été organisée mercredi à l'Omeram dans le groupement de Louis, la communauté locale et certains opérateurs ayant travaillé dans le carré minier de l'Omeram sollicitent la reprise des activités sur place. Un mémo a été déposé au secrétaire administratif du centre de l'Omeram. Et un groupe d'individus circule dans le groupement d'Irambi Katana en territoire de Kabaré, se faisant passer pour des humanitaires pour escroquer les paisibles citoyens. La plateforme Amis de Katana lance une alerte et appelle la population à la vigilance. En sport, Ligue 1 Illico Cash 2025-2026, choc oppose ce jeudi à Kindu au Maniema, l'AS Dauphin Noir des Goma à l'OC Bukavudawa. C'est la première sortie de Bukavudawa loin de Kinshasa depuis le démarrage de ce championnat. Les Corbeaux restent sur une série sombre de 4 défaites dont 2 par forfait. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedicale.
Plusieurs familles restent sans abri après une pluie torrentielle accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu sur l'ensemble de la cité de Kamagnola en territoire de Walungu la soirée de mardi 4 novembre à mercredi 5 novembre 2025. Selon les témoignages de certaines victimes contactées par notre correspondant sur place, plusieurs maisons d'habitation ont été endommagées. Certaines ont perdu leur toiture et d'autres complètement endommagées. Plusieurs branches d'arbres ont été cassées et certaines sont tombées sur les artères de la route, perturbant ainsi la circulation dans certains quartiers de Kamagnola, ajoute notre source. À ceci s'ajoutent certains poteaux électriques qui se sont écroulés, une situation à la base de la coupure du courant électrique dans plusieurs ménages de la place. Pour l'instant, aucun bilan humain n'a été signalé en attendant le rapport officiel des autorités en place. Notez par ailleurs que les activités au sein de certaines écoles touchées par cette catastrophe ont été perturbées mercredi 5 novembre en attendant la mobilisation des fonds pour la réhabilitation et la réparation d'infrastructures touchées, conclut notre correspondant sur place à Kamagnola, Wendo Joé. Et des sinistrés, les inondations survenues dans les villages Bouchouchou et Nyamukubi, dans le territoire de Calais depuis mai 2023, plaident pour une assistance en leur faveur. Dans un entretien avec Radio Mandeléo, ces sinistrés, principalement ceux logés dans le site de Loakodise, faire face à plusieurs problèmes depuis près de 2 ans maintenant. C'est notamment le manque de nourriture, le manque de soins et d'abri. À ceci s'ajoutent les cas de plusieurs enfants qui ne vont plus à l'école par manque des frais scolaires suite à cette situation. Ces sinistrés demandent aux organisations humanitaires et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Cet enfant sinistré en parle.
Nous souffrons beaucoup, nous avons faim, nous n'avons pas accès aux soins, pas de moyens pour nous payer les frais scolaires. Nous allons à l'école sans rien manger, nous avons du mal à suivre les cours à cause de la famine. Même ceux qui sont déjà aux humanités sont chassés. Les vulnérables, les orphelins et les personnes âgées souffrent davantage. Si nous n'avons pas à manger, nous ne pouvons pas avoir la force.
Signalons que ces sinistrés sont venus des villages des Bouchouchou et Nyamukubi après une catastrophe naturelle qui avait coûté la vie à plusieurs centaines de personnes, des maisons détruites, des champs dévastés et plusieurs autres infrastructures communautaires. Vous suivez Radio Mandeléo dans quelques instants, la suite de ce Radio Journal.
Suivez Radio Mandeléo en direct partout dans le monde sur www.radiomandeléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Mandeléo. Radio Mandeléo, c'est vous.
Vous l'avez suivi au sommaire de ce radio-journal, la communauté locale de l'Omera et entité voisine dans le groupement de Louis en territoire de Kabaré, ainsi que d'autres opérateurs ayant travaillé dans ce carré minier d'exploitation artisanale, sollicitent sa rouverture dans un plus bref délai. Ceci pourra permettre de relancer les activités, sauver les investissements y abandonnés depuis sa fermeture le 8 septembre 2025, mais aussi et surtout sauver les communautés locales qui n'avaient aucune autre source de survie après avoir cédé leur concession à l'exploitation minière. C'est l'essentiel du mémorandum lu et déposé aux mains du secrétaire administratif du centre de l'Omera au terme d'une marche pacifique organisée sur place mercredi 5 novembre 2025. Détail, Alain Kabika.
Cette marche intervient quelques jours seulement après l'annonce du chef des groupements ad intérim, obligeant tous ceux qui détiennent encore des biens, notamment les sables minéralisés et autres investissements, de déguerpir du site de l'Omera. On écoute un extrait de ce mémorandum, lu par Eri Bainouza, jeune du milieu et membre de la communauté locale.
Nous, membres de la communauté locale de l'Omera, avons suivi avec consternation les messages du chef de groupement ad intérim de lui en date du mardi 4 novembre 2025, annonçant le développement des biens investis sur le site minier de l'Omera. Cette annonce vient s'ajouter à la détresse profonde d'une population qui dépendait exclusivement de l'exploitation artisanale pour sa survie après avoir abandonné l'agriculture, l'élevage et la pêche. Nous sollicitons la présence de notre père, excellence gouverneur de province, sur le site de l'Omera pour une communication claire, officielle et publique, comme cela fut le cas lors de l'annonce de la fermeture du site le 8 septembre 2025. Tout en sollicitant une fois de plus la réouverture du site minier, nous restons ouverts au dialogue, mais fermes dans notre engagement à défendre nos droits, notre dignité et notre survie.
Ayant réceptionné ces mémorandums, le secrétaire du chef des centres a promis de les transmettre à qui des droits. Précisons que suite à cette manifestation, aucune école n'a ouvert ses portes dans la zone. Entre-temps, les manifestants se sont rués vers les sites et ont mis en mouvement certains concasseurs pour manifester leur volonté de voir les activités reprendre au site minier de l'Omera.
Et la plateforme Amis de Katana alerte sur la présence d'un groupe d'individus qui circulent dans certains villages du groupement d'Irambi Katana en territoire de Kabaré, se faisant passer pour des humanitaires, mais qui ne font qu'escroquer les paisibles citoyens. Dans une dépêche rendue publique, mercredi 5 novembre, cette structure fait observer que ce groupe d'individus distribue des faux jetons aux citoyens moyennant une somme d'argent sous prétexte qu'ils seront inscrits sur la liste des bénéficiaires des vivres et non-vivres en termes d'assistance humanitaire. La plateforme Amis de Katana appelle la population à la vigilance et a dénoncé ces escrocs auprès des autorités, car en principe, les organisations humanitaires n'exigent pas l'argent pour octroyer des aides aux vulnérables. Justin Mouroula, natif de Katana et porte-parole de la plateforme Amis de Katana, en parle.
Nous avons été alertés par la population qu'il y a des gens qui passent dans les villages pour distribuer des jetons. C'est un consortium entre les ONG et ces fameux consortiums donnent un jeton, donnent une carte de bénéficiaire. En contrepartie, il faut donner 50 000 francs. Ces 50 000 francs, c'est pour que la personne ou le ménage ait accès à une probable aide humanitaire. Nous pensons que ça, c'est de l'arnaque. Alors, nous voulons vraiment alerter les autorités locales, la société civile et toute la communauté de Katana qu'ils doivent faire attention parce qu'on risque de les arnaquer. L'aide humanitaire est gratuite.
Signalons que plusieurs personnes seraient déjà tombées dans le filet de ces escrocs dans le village de Kadutu, Kabamba, Mabingu et leurs environs dans le groupement d'Irambi Katana, conclut notre source. Et depuis plusieurs jours, sur les rives d'Ijui s'observent les recours de plus en plus fréquents aux méthodes de pêche non conformes aux normes environnementales. En effet, des filets prohibés seraient utilisés par les pêcheurs menaçant ainsi la faune lacustre et l'équilibre du milieu depuis environ 2 semaines en violation des règles leur résistance au secteur. C'est ce qu'indique Elia Birembe, président de l'initiative des jeunes leaders pour le développement intégré dans un entretien avec Radio Mandela. Pour lui, les autorités locales devraient intensifier le contrôle et sanctionner les pratiques illégales afin de protéger cette richesse naturelle indispensable à la survie de nombreuses familles. Elia Birembe appelle les pêcheurs à respecter les principes établis pour préserver durablement les ressources halieutiques, car, rappelle-t-il, l'avenir du lac Kivu dépend d'une gestion responsable. On l'écoute.
Nous, comme la jeunesse du territoire d'Ijoui, nous interpellons, monsieur l'administrateur du territoire d'Ijoui, de chercher comment passer à la vérification des filets qui font leur activité dans les lacs Kivu. Ça fait des semaines dont nous voyons des désordres sur les lacs Kivu. Les pêcheurs ne respectent plus leur règlement d'ordre du lac Kivu. Dans ces cas-là, nous interpellons les autorités du territoire d'Ijoui de chercher comment résoudre les problèmes et s'impliquer aussi dans des cas pareils.
Vous venez de suivre Elia Bilembe, président de l'initiative des jeunes leaders pour le développement intégré. Et avec vous, Hélène Naboudjiriri, une dizaine de projets d'innovation impliquant à la fois l'écologie, l'économie et les numériques ont atteint leur stade de maturité grâce au laboratoire de fabrication numérique Fab Lab Éco-Déchets de l'Université évangélique en Afrique, UEA en sigle. Certains de ces projets ont été présentés dans une séance de pitch organisée mercredi à l'occasion d'une conférence de présentation des réalisations du laboratoire de fabrication numérique Fab Lab Éco de l'UEA.
Ce laboratoire qui est du domaine de l'éco-innovation est une réponse aux défis environnementaux actuels en combinant à la fois la créativité, la durabilité et la technologie, fait savoir le professeur Kacho Karume, un des animateurs du Fab Lab. Selon le professeur Fabrice Mfouamba, coordonnateur du Fab Lab, la séance avait pour but d'étaler aux participants les idées d'innovation encadrées par le Fab Lab de l'UEA et comprendre la quintessence de leur contenu. L'idée est de récolter les avis des différentes parties prenantes pour une appropriation collective du projet.
Oui, l'objectif c'était premièrement de mettre en contact d'abord ce que nous faisons, notamment les résultats, précisément les prototypes qui rentrent dans le cadre de technologie numérique, donc des innovations, les résultats de projets et d'innovation de nos jeunes et de nos étudiants et de nos étudiantes.
Une multitude de projets sont encadrés par ce laboratoire à ce stade. Environ 15 ont atteint leur stade de maturité en vue d'une commercialisation dans les jours à venir. Ces projets sont entre autres une couveuse avec pompe à chaleur, une poubelle intelligente capable de faire le tri des déchets, une start-up de la transformation du plastique en meubles et une autre de la valorisation des déchets organiques pour la fabrication du biogaz. Dans la présentation de son projet, Munirenkana Boendo-Esther, responsable de la start-up sur la transformation du plastique en meubles et témoigne de l'accompagnement du Fab Lab dans la mise en œuvre du premier prototype. Elle affirme avoir conçu juste l'idée, mais avec les Fab Lab, les aspects techniques, écologiques et économiques du projet ont été développés. Munirenkana Boendo-Esther.
Déjà au début, j'avais juste l'idée en tête, mais je ne savais pas comment j'allais commencer ni comment j'allais faire le tout. Mais d'abord, on a eu à discuter sur le projet. Ils m'ont donné des améliorations sur les perspectives que je pouvais avoir avec mon projet. Et ensuite, ils m'ont aidé à fabriquer une machine qui va me permettre justement de faire le planche. Ça fait à la fois la compression des déchets plastiques et le moulage pour avoir des planches que nous allons ensuite utiliser pour faire de meubles.
Cette conférence a réuni les organisations des entrepreneurs, des chercheurs et des représentants des entités publiques. Elle s'est tenue au Centre d'excellence Denis Mukwege qui abrite les cadres de travail de ces Fab Labs à l'Université évangélique en Afrique, UEA.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maëdéléo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Sport à présent, un choc de la Ligue nationale de football est prévu ce jeudi 6 novembre au stade de Joseph Kabila de Kindu Maniema. Il oppose l'AS Dauphin Noir de Goma à l'OC Bukavu Dawa. Cette rencontre devrait avoir lieu ce mercredi, mais un report de 24 heures a été accordé sur demande de l'OC Bukavu Dawa pour permettre à l'équipe de Bukavu d'arriver sur les lieux à temps. C'est la première sortie de Bukavu Dawa loin de Kinshasa depuis le démarrage de ce championnat. Les Corbeaux avaient perdu perdu deux de leurs premiers matchs par forfait avant d'enregistrer deux défaites successives à Kinshasa, respectivement face à Celeste FC et au Serenaissance. Après le match face à l'AS Dauphin Noir, ce jeudi, les Corbeaux vont rester à Kindu pour y affronter l'AS Maniema Union le samedi 8 novembre. La semaine s'annonce donc décisive pour Bukavu Dawa avec deux adversaires, pas les moindres au vu de leurs prestations en ces débuts de saison. Dauphin Noir et sans défaite jusque-là, et Maniema Union participe à la Coupe de la Confédération avec à la clé une qualification pour la phase de groupe. Sur place à Kindu, Étoile du Kivu vient d'y livrer un match. C'était donc comme le mardi dernier, une rencontre qui se soldait par un score nul avec Celeste FC de Mbandaka.
La revue de presse. Radio Maïdélé au Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La malnutrition qui sévit dans la province de l'Ituri, des inondations survenues à Kinshasa font partie des sujets rédigés par les médias qui paraissent, que ce soit dans la ville de Bukavu comme ailleurs. Hélène Boudjeriri pour la revue de presse.
Ituri. La voix des enfants s'élève contre la malnutrition et appelle à l'action, c'est le titre de Watoto News. À Bunia, des enfants venus de différents territoires de l'Ituri se sont réunis à l'hôtel de la Provence pour faire entendre leur voix. Une cinquantaine d'entre eux, membres du comité provincial des enfants, ont dénoncé publiquement la malnutrition qui sévit dans leur province et touche des milliers de leurs pères, indiquent ces médias. La rencontre s'est tenue avec l'appui des Save the Children et de la division provinciale du genre. Les jeunes participants ont présenté un plaidoyer demandant aux autorités provinciales, aux organisations humanitaires et aux partenaires de renforcer leur engagement face à la malnutrition. Viviane Chipamba, intervenant au nom du comité, a décrit une situation particulièrement critique dans les territoires des Djougou et des Mambasa où les violences armées aggravent l'insécurité alimentaire et bloquent l'accès aux soins non soins. Des cas d'inondation sont signalés à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa mardi 4 novembre 2025. Les communes les plus touchées par cette catastrophe naturelle, à en croire Radio Okapi, sont Lingwala, où le bourgmestre a fait état de l'inondation du quartier Lokole, ainsi que de Ri, Nyangwe et Kalembelembe. Dans la commune de Kalamu, l'autorité municipale a alerté sur les débordements de la rivière Kalamu, ainsi que sur l'état d'insalubrité déplorable de certaines ruelles causées par des déchets emportés par les eaux des pluies. Dans la commune de Barunga, la rue Praga a été complètement submergée, entravant la circulation des véhicules et autres engins roulants. À quelques mètres de là, l'école catholique Saint-Charles-Luanga a été inondée. Selon un des professeurs de cet établissement scolaire, les cours de la vacation du soir n'ont pas été organisés. En raison des inondations, plusieurs quartiers de cette municipalité sont restés dans les noirs à la suite de l'arrêt de la sous-station de la Funa qui s'est retrouvée sous les eaux des pluies, indique Radio Okapi. Des milliers de familles ont quitté leur village suite aux affrontements récurrents entre les troupes de la FTM-23 et les combattants Wazalendo, ainsi que leurs successifs respectifs, dans plusieurs localités de la chefferie des Ninja en territoire des Kabaré, ainsi que dans le groupement des Kalungi en chefferie des Bouavou, territoire des Kalehe. Alerte l'organisation Jeunesse Active pour le Développement. Jade, qui s'est confiée à la rédaction de Jambo RADC, décrit une situation désastreuse de ces personnes, notamment dans les groupements Madihembe, actuellement lieu de refuge de tous les déplacés et enfoui les combats. Selon un membre de cette organisation des jeunes, plus de 24 623 ménages déplacés enfouis les zones de conflit dans la chefferie de Ngueshe et Kabare. Pour se réfugier dans le groupement Madihembe, Luago et Iregabaroni en chefferie de Ninja, ainsi qu'à Kalungi à Bouavou, et d'ajouter que celui-ci regrette les conditions précaires dans lesquelles vivent ces déplacés internes, hébergés dans des familles d'accueil aussi très vulnérables, avec des difficultés comme le manque de nourriture, de l'eau potable et d'autres besoins primaires, entre autres le manque d'accès aux soins de santé, la non-scolarisation des enfants de déplacés, la vulnérabilité accrue des femmes exposées aux violences sexuelles et à l'exploitation, signale Jambo RDC.
Par ici, pour France Radio Journal, Jean-Claude Ndaga a assuré la mise en onde devant ce micro pour la présentation expédie Kialou. Passez des beaux moments en compagnie de Radio Mandeléo. Au revoir.